vous invite à prier avec moi pour nous préparer à entendre la parole. Les enfants, vous pouvez rester ou voilà, il y a Camille qui va chez nous. Prions. Seigneur, nous voulons lire ta parole, la comprendre, découvrir comment tu as parlé à ton peuple il y a des siècles de cela, mais découvrir comment cette parole elle nous atteint aujourd'hui aussi à travers l'Esprit Saint qui nous habite. Inspire et conduis ce temps de prédication, tant pour moi qui vais prêcher que pour le peuple qui la reçoit. On te remet aussi ceux qui sont à distance et qui nous suivent par caméra. On les salue et te demande de les bénir aussi. Amen. J'ai commencé au début des vacances un peu une exploration des épîtres de Jean. On avait lu la deuxième épître de Jean d'une traite parce qu'elle est courte. Et maintenant, je veux continuer dans la première épître de Jean. Et donc, nous avons lu la dernière fois jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Et c'est là que nous allons reprendre notre lecture. Je vous rebrosse sommairement un petit tableau de la situation. Donc Jean, à cette époque-là, est une sorte d'évêque. Il supervise plusieurs églises, dont il a la charge en tant que berger et pasteur. Et il leur écrit une lettre dans laquelle, en fait, ils essaient de les fortifier sur le bon chemin parce que, dans ces églises, un nouveau courant spirituel est en train d'avoir lieu. Et ce courant, qui sera plus tard connu sous le nom de docétisme, prétend que, en fait, Dieu ne s'est pas vraiment incarné. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il s'est déguisé en humain, mais à l'intérieur, il était 100% Dieu, et c'est tout. Il y avait juste une espèce d'enveloppe humaine, d'apparence humaine, mais qu'au fond de lui, ce n'était pas un humain du tout. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas né à un moment de Marie. Voilà. Et Jean s'oppose à cette hérésie qui est en train de naître dans ces églises, et il cherche, parce qu'une fois que l'incarnation est mise de côté, en fait, ben on peut faire ce qu'on veut avec son corps, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc le corps est négligeable, il est méprisable, donc on peut le maltraiter, ou on peut au contraire se livrer à la débauche, en un sens, ou aux excès, parce que ce qui compte, c'est le cœur et l'esprit qui va au ciel. Ce qui est matériel et charnel, ça va à la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que si le Christ s'est incarné, s'il a pris chair, s'il est devenu un humain, je dois respecter toute l'humanité que je suis, corps et cœur, que voilà. Donc on va voir un peu... Et donc il essaye de montrer, de travailler à ce que ces églises restent sur le droit chemin. La dernière fois, nous avions vu ensemble que Dieu est lumière. Et qu'est-ce que ça voulait dire que de chercher cette lumière de Dieu ? Et là maintenant, on va continuer notre lecture. On va lire jusqu'au verset 11 ensemble, à partir du verset 3. 1 Jean 2, verset 3. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit aussi marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendu. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui, pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On continue dans cette lancée de Jean où on entend bien dans son discours, dans ce qu'il écrit, qu'il y a deux camps. Et Jean est en souci que ces deux camps dans l'Église cohabitent de manière mélangée et qu'on ne sache pas distinguer qui est de quoi. Alors, il nous avait déjà parlé de marcher dans la lumière pour être en communion les uns avec les autres et que celui qui est dans les ténèbres, il se leurre. Mais tantôt, ce qu'on avait lu au premier chapitre, c'est que celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui dit « Ah, moi, je n'ai pas de péché. Moi, je n'ai pas de péché. » Et là, on voit une nouvelle épreuve, un test. Comment est-ce que nous allons discerner dans l'Église qui marche avec le Seigneur et qui ne marche pas avec le Seigneur? Eh bien, celui qui marche avec le Seigneur garde les commandements du Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur garde les commandements du Seigneur. Donc c'est facile, il n'y a qu'à savoir qui dans l'Église obéit à la parole et puis qui n'obéit pas, puis pof, on va savoir. Sauf que, vous vous en doutez, ça ne marche pas comme ça. Un peu à l'instar de Jésus qui nous dit « Celui qui traite son frère de vaurien dans son cœur est passible du tribunal ». Celui qui convoite la femme ou l'époux de son prochain dans son cœur a déjà commis l'adultère avec lui ou elle. Ici, c'est simple, soit tu obéis à tous les commandements de Jésus, soit tu ne fais pas partie de l'équipe. Et on se dit, mais personne ne peut tenir. Alors quel est ce commandement mystérieux-là? Il nous parle d'un commandement ancien, il nous parle d'un commandement nouveau, et que d'un seul qui semblerait tout résumer. Et ce commandement, je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu parler, il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et je vous le relis. Donc, 15, verset 10, Jésus dit à ses disciples au moment de leur voir, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Ah bon ? Et comment Dieu nous a aimés ? Comment Christ nous a aimés ? Et il continue, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Du coup, on comprend pourquoi Jean, dans son test, dans son épreuve, il dit « Celui qui dit prétend être dans la lumière, mais qui a de la haine pour son frère, il se leurre. » Parce que le commandement, c'est « Aime ton frère, pas comme toi-même, presque. Comme toi-même, c'est déjà balèze. » Mais Jésus place la barre encore plus haut. « Aime ton prochain comme moi, je t'aime. » Va se lever tôt. Tellement dur, tellement difficile. Mais alors, qui peut dire « Je fais partie de l'équipe de Jésus, moi, je marche dans la lumière. » Ah, j'aime tout le monde. Vous en connaissez forcément de ces personnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec un tel ? Je n'ai pas de problème. Tout va bien. J'ai tout pardonné. Et vous sentez, vous savez au fond de vous que c'est tellement pas le cas. Que c'est tellement pas le cas, qu'il y a encore plein de choses à régler. Qu'on n'est pas en train de réellement pardonner, mais qu'on est en train de, comme on dit, mettre la poussière sous le tapis. Tout va bien. Celui qui aime son frère, celui qui aime son frère, demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais si je n'y arrive pas, si Seigneur, je sens bien que je ne devrais pas lui en vouloir, mais comment faire ? Jean nous a déjà donné la solution. Au chapitre 1, souvenez-vous, il nous avait dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La question ne se joue pas tant dans le « est-ce que j'y arrive ou pas ?» Est-ce que j'y arrive ou pas ? Non. La question est vers où je vais ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Vers quoi j'engage mes efforts ? Mon travail sur moi ? Celui qui vit dans la lumière accepte de faire un constat honnête sur là où il en est. Vivre dans la lumière, c'est accepter que cette lumière de Christ en moi, dans mon cœur, pénètre mon cœur, dévoile mon cœur, et que je comprenne vers où je vais. Et j'ai l'assurance, elle m'est donnée par la parole, que si je laisse cette lumière pénétrer mon cœur, tout ce sur quoi elle viendra jeter une clarté me sera pardonné. Le simple fait de rentrer dans cette lumière, de activement dire « Seigneur, je veux vivre à ta lumière », nous assure le pardon. Je vous le relis. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ou plus loin, il dit aussi si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier toute injustice. Mais ce n'est pas forcément facile de vivre dans la lumière. Ça opère un changement de relation à soi-même. Je ne peux plus être dans le mérite. Je peux être dans la joie, dans le plaisir, dans l'enthousiasme, mais pas dans le mérite. Parce que tout me vient de Dieu et que je ne cherche plus à performer. Parce que si je cherche à être performant, à avoir des choses à montrer aux autres, ah ouais, j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela, en fait, je vais immanquablement avoir envie de cacher mes fautes. Je vais immanquablement avoir un mal fou à dire mes faiblesses. Je vais immanquablement avoir du mal à demander de l'aide, à reconnaître mes torts. Mais si je vis pour la lumière, dans la lumière, oui, mon ego va en prendre un sacré coup, oui, mais sur le long terme, ça me fera beaucoup de bien. Et surtout, je vais avoir accès à cette liberté des enfants de Dieu. Et comme j'aurai de moins en moins besoin de briller aux yeux des hommes, mais que je brillerai naturellement de Christ. J'aurai de moins en moins besoin d'être en compétition avec mes frères et mes sœurs, de les jalouser et donc de les haïr. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Difficile. Mais vous savez, parfois, un premier pas consiste le plus souvent en un constat honnête. Souvent, quand on ne sait pas comment faire pour revenir vers l'autre ou dire quelque chose, le mieux est de dire la vérité et d'aller voir l'autre et de lui dire « Je ne sais pas comment faire pour revenir vers toi. » Vous ne savez pas comment vous réconcilier ou vous avez de l'amertume envers quelqu'un. Comment faire ce premier pas? Dites la vérité. J'ai de l'amertume envers toi. Et ça me désole. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Et qui sait ce que l'Esprit Saint fera entre vous après ça? Mais il y a mieux que cela quand même. Déjà ça c'est plutôt la partie challenge hein, où le Seigneur nous confronte. Mais il y a une belle partie aussi dans ce texte à relever. De même. Il dit, et c'est étonnant, car les ténèbres passent, mais la véritable lumière brille déjà. Si on faisait un petit sondage là à chaud, je ne sais pas si vous auriez l'impression que nous sommes dans un monde où déjà la lumière brille. Plutôt l'impression que tout s'effondre, on ne sait pas où va l'éthique, la morale, les mœurs, la guerre, l'économie, la géopolitique, tout ça. Bon, un peu le chaos. Mais Jean ose dire déjà la lumière brille. Moi, j'y trouve un grand encouragement dans le fait que le Seigneur règne maintenant et que votre lumière, et vous l'avez, puisque l'Esprit de Dieu est en vous, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous ne savez pas si vous avez l'Esprit de Dieu, vous le demandez, vous en parlez à un ancien. Vous avez la lumière et déjà elle brille en vous et déjà elle porte un fruit certain sur ceux qui vous entourent. Déjà, vous portez un fruit sur ceux qui vous entourent. Déjà, cette lumière en vous les bénit. Je ne veux pas dire qu'elle les sauve, qu'elle les arrache des griffes des ténèbres pour les plonger dans le royaume de lumière du Seigneur, mais vous les bénissez sans même peut-être vous en rendre compte, simplement en étant ces témoins de lumière, ces porteurs de Christ à leur côté. Et ça, ce n'est pas rien. Vous êtes déjà efficace malgré vous. Et la deuxième chose que je trouve vraiment encourageante dans ce texte, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais vous savez où vous allez, alors que ceux qui sont dans les ténèbres sont aveuglés. Ils s'aveuglent même, comme l'avait dit Jean au chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Je me raconte une histoire. Je me dis quelque chose qui n'est pas vrai. On peut avoir l'impression que quand on marche dans la lumière et puis qu'on fait tous ces constats un peu négatifs sur nous-mêmes, hein, que ça nous perd plus qu'autre chose et qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, puis on ne sait pas trop ce à quoi nous allons parvenir. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais tenir? Et peut-être avez-vous l'impression de ne pas savoir où vous allez, tandis que celui qui est dans les ténèbres et qui se raconte son petit discours, en apparence, peut-être, semble-t-il beaucoup plus assuré de sa destination que vous. Mais moi, je peux déjà vous dire où vous allez. Peut-être pas dans le détail, mais dans les grandes lignes. On trouve ça dans le plus grand et le plus beau chapitre de Paul, à savoir l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Si un jour j'apprends un chapitre par cœur, ce sera celui-là. Au chapitre 8, il est dit au verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors si vous vous posez la question, mais est-ce que je vais réussir à devenir un chrétien adulte et mature? La réponse est oui. C'est écrit. Aussitôt que l'Esprit Saint est venu prendre place dans votre vie, votre destinée finale a été scellée. Il n'y a plus de match. Dans ce sens, vous marchez beaucoup plus dans la lumière que beaucoup. Tout l'enjeu va être dans cette collaboration, que je vais être capable de vivre avec le Seigneur et avec son Esprit en moi ou pas. Vous avez été prédestiné à être rendu semblable à Jésus. Et toute votre marche terrestre, ce processus va se passer. Parfois, vous allez être rayonnant de gloire. Ah, le Seigneur, blablabli, blablabla, dans ma vie. Et vous allez briller sur les autres de cette foi, de cette joie, de cette reconnaissance que oui, Dieu agit. Et faites-le briller parce que ça fait du bien. Des fois, on dit, ah non, non, mais il y en a, il leur arrive plein de trucs terribles. Moi, j'ose pas dire que le Seigneur a fait quelque chose de chouette dans ma vie. Si, si. Et puis, des fois, vous savez, comme dans ces dessins animés, personnage, il tient le dernier wagon du train et puis il se prend toutes les traverses en bois des rails là. Ça fait mal. Mais il avance. Il avance, tant que le train avance, il avance. Il a mal. Et lui, il a l'impression d'être minable, de tout subir, de ne pas être capable de réagir à quoi que ce soit. Il ne fait qu'une chose, c'est de tenir avec une main. Il y a vraiment des moments où notre vie avec le Seigneur, c'est ça aussi. Et on se dit, on ne vaut rien. Alors que, du point de vue du Seigneur, nous avançons. Nous avançons. Nous n'arrêtons pas d'avancer. Vous êtes dans la lumière et votre route est simple et claire. Elle n'est pas facile, elle est simple et claire. Vous êtes transformé à l'image de Jésus, de jour en jour, d'heure en heure, avec votre pleine collaboration et votre pleine conscience, ou sans vous en rendre compte. Cela afin que vous portiez du fruit, comme les arbres de vie que vous êtes devenus, puisque vous avez été tous greffés à Jésus par son Esprit. Et déjà, votre lumière brille autour de vous. N'en doutez pas, même dans les heures sombres où tout semble raté. Accrochez-vous au Seigneur. Les chrétiens ne sont pas des gens de performance. Nous vivons dans un monde de performance et d'optimisation. Comment pouvons-nous optimiser un rendement ? Un placement? Comment pouvons-nous optimiser une production, optimiser le temps de travail? Comment est-ce que je peux optimiser mon plaisir, mon loisir? Ce qui caractérise le chrétien n'est pas l'optimisation ou la performance, mais la fidélité et l'obéissance. De la même manière que voilà, les médecins qui se sont occupés d'Alamarck ont-ils dit à Alamarck, écoutez, nous allons vous guérir. Nous allons mettre en œuvre tout ce qui est à notre disposition pour vous guérir. Les médecins, je le répète souvent dans cette église, sont tenus non pas de donner des résultats, mais sont tenus de montrer les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour atteindre un résultat. On ne leur demande pas si, par exemple, il avait eu un AVC grave et qu'il y aurait eu une enquête de fait. On ne verrait pas si, il y a eu un AVC, donc il y a eu faute. On verrait, est-ce que vous vous êtes donné les moyens pour vous prévenir au maximum de ce risque? Et si les moyens sont mis en œuvre, les médecins sont déclarés non coupables, non responsables. Parfois, vous pouvez vous dire, mais pourquoi telle personne ne vient-elle pas au Seigneur? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me réconcilier avec un tel? Mais pourquoi est-ce que lui, je ne peux pas l'aider? Il y a peut-être une part de choses où vous pouvez vous remettre en question, mais ultimement, ce que Dieu vous demande n'est pas de réussir, comme dans ce monde, mais d'être trouvé fidèle. C'est pas pareil. Marcher dans la lumière, briller de cette lumière. Mais il ne vous appartient pas de savoir ce que les autres feront de cette lumière. Christ a été la lumière la plus pure et la plus brillante de Dieu qui a brillé sur la terre. Et on peut voir à travers les évangiles toute la palette de réactions qu'il y a eu face à cette lumière. Certains se sont précipités dessus, comme des papillons sur une lanterne un soir d'été, au point de se brûler les ailes. D'autres ont fui et ont cherché à l'éteindre. D'autres sont venus se servir de quelque chose et puis sont repartis et on ne les a plus jamais revus. Mais Jésus, lui, ne se sentait pas responsable de ce que les gens allaient faire de sa lumière. Il se sentait responsable que sa lumière brille sur tous les hommes. Et nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes les disciples du Christ, nous sommes appelés à ce que notre lumière brille sur tous les hommes. Parce que peut-être qu'il y en a qui se perdent en se racontant des histoires à eux-mêmes. Et peut-être d'autres se perdent parce qu'on leur a trop raconté d'histoires. Et qui seront bien contents de croiser la route de quelqu'un qui parle vrai, qui ne parle pas pour séduire, et qui brille d'une lumière qu'il n'avait jamais connue jusqu'alors. Et ça peut être vous. Marchons dans la lumière. Cultivons cette sincérité de cœur avec le Christ. Laissons-le venir nous montrer le fond de notre caverne. Ma mère m'avait raconté que sur un reportage, vous savez, type Jean-Pierre Pernaut, de TF1 à 13h, là. Il visitait une mamie qui habitait au fin fond de la Pampa, je ne sais pas où, dans une maison sans électricité. Et alors, les caméras rentrent dans la maison, sans électricité. Et donc, pour filmer l'intérieur, ils mettent des spots. Sauf qu'elle n'avait jamais d'électricité. Donc, quand ils mettent les spots, qu'est-ce qu'on voit de partout? Des toiles d'araignée. Quelle a été la réaction de la mamie? Oh, cachez ça! Éteignez! Je ne veux pas qu'on voit! Ben non! Elle a pris son plumeau, elle dit « Ah! Mais c'est pratique !» Et hop, elle s'est levée et elle s'est mise à tout nettoyer, ce qu'elle ne voyait pas d'habitude. Elle n'a pas une réaction de honte ou de gêne, elle a dit « Je ne savais pas, je ne voyais pas, maintenant je vois !» Et quand la lumière du Christ vient en nous, nous sommes souvent assaillis de culpabilité. La culpabilité peut avoir un bon sens parce qu'elle nous révèle parfois notre responsabilité ou la nature de nos actes. Mais à haute dose, c'est un poison mortel. Mortel. Et nous devons nous emparer de la grâce qui est en Jésus. La grâce qui est en Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas, nous dit Jean, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, vivre dans la lumière, c'est vivre dans la repentance. Oui, oui. Oui, vivre dans la lumière, c'est entreprendre un chemin où on passera notre vie à apprendre que ici ou là, on n'y arrive pas. Et à gérer ces péchés où on retombe, on y arrive. Bon, oui, ne nous leurrons pas. Il n'y a pas un moment où vous allez vous coucher le soir en disant « Ah, j'ai pas péché aujourd'hui ». Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. L'idée est pas... Vous savez, les pharisiens jouaient à ça. Alors, il y a la ligne de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils se mettaient juste devant la ligne de tout ce qu'il ne faut pas faire et ils ne bougeaient pas de la journée. Et il fallait qu'à la fin de la journée, ils puissent dire « Ah, je n'ai pas enfreint un seul commandement. » Oui, mais as-tu fait le bien ? Tu te targues de ne pas avoir fait le mal, mais as-tu fait le bien ? Jésus nous apprend autre chose. Vous êtes dans la grâce, vous avez reçu la grâce de Dieu, le pardon plein et entier de vos péchés, pour faire le bien. Pas pour vous immobiliser de telle sorte que j'ai pas fait de mal. Pour faire le bien. Je tourne en rond, donc je vais m'arrêter. Ceux qui, dans l'Église, refusent d'être interpellés à la lumière de la parole, celui qui, lorsqu'il est confronté à la vérité de l'Évangile, s'invente une histoire, ou nous invente une histoire, et je m'adresse à vous, mes chers aînés, que j'aime de tout mon cœur, l'argument de « à mon âge, on ne se refait plus » ne marche pas avec l'Esprit Saint. Ça ne marche pas avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, en fait, vous devez savoir que vous êtes tout simplement immortel. Vous allez vivre l'éternité. Alors dire « à mon âge », ça ne veut juste rien dire. Qu'est-ce que vous direz quand vous serez à votre 1000e année de vie avec le Christ dans son royaume ? Et que vous continuerez d'être transformé sans cesse à son image, puisque Dieu est infini, et que nous n'aurons pas fini d'être transformés à sa gloire et de lui ressembler. Vous ne direz pas « à mon âge, on ne se refait plus ». Laissons-nous transformer à son image, laissons-nous façonner par cette lumière, vivons dans cette lumière, faisons-nous grâce les uns les autres, accueillons-nous favorablement quand les uns les autres nous revenons pour quitter la haine, quitter l'amertume, quitter la colère ou quitter la prétention du pardon. Faisons-nous bon accueil. Encourageons-nous. Bravo. Merci d'être venu me parler. Tu as bien fait. Moi non plus, je ne sais pas comment faire. On va apprendre. Soyons humbles, sincères, dans la lumière, et vous allez voir que cette communauté va porter un fruit incroyable. Que Dieu vous bénisse.